Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghettis.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière ce micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Hier, c'était le 8 mars et c'était aussi la Journée internationale de la femme, qui est une occasion de souligner et de se rappeler tout le chemin qui a été parcouru par les femmes, par les hommes, notamment en ce qui a trait à l'égalité des droits. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire et il y a des enjeux qui sont toujours tout aussi importants, dont celui de la santé. Donc aujourd'hui, une émission qui est vouée à la santé au féminin, avec en deuxième partie d'émission l'oncologue et gynécologue, le docteur Régent Savoie, qui nous parle de ménopause, une étape qui est inévitable dans la vie de toutes les femmes à l'approche de la cinquantaine. Et pour ce médecin qu'on va joindre du côté du Nouveau-Brunswick, il n'est jamais trop tard pour se préparer à mieux vivre ce passage-là et à alléger les symptômes. Mais d'abord, avec le docteur Marc Stében, lui directeur médical de la Clinique A, on tente de mieux connaître l'endométriose, un problème de santé qui touche 5 à 10 % des femmes en âge de procréer. Marc Stében, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, vous-même?
Oui, je vais bien. Merci de participer à cette émission. Toujours un plaisir de vous parler. L'endométriose, donc, qui semble, suite à mes lectures, et vous me le direz bien sûr, une maladie qui est complexe.
Effectivement, c'est une maladie qui est complexe parce que c'est une maladie qui présente des cellules qui ne sont pas à bonne place, mais que ce n'est pas un cancer.
OK.
Donc, l'endométriose, c'est d'avoir des cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est la peau à l'intérieur de l'utérus qui donne les menstruations, qui agit comme nid pour l'œuf fécondé. Mais quand on trouve ces cellules qui menstruent à l'extérieur de l'endomètre, en dehors de l'utérus, c'est là que les problèmes se compliquent. Et l'endométriose est une maladie qui, plus on la cherche, plus on va la trouver. Et souvent, c'est souvent un peu plate que les femmes aient eu à se plaindre de nombreuses années avant que finalement, on réussisse à diagnostiquer quel était le problème.
Mais lorsque l'on dit 5 à 10 % des femmes, est-ce que ce sont des chiffres qui sont assez près de la réalité, Dr Stében?
C'est sûr qu'il faut faire la différence entre l'endométriose qui va handicaper une femme, qui va lui faire manquer le travail, qui va lui causer des problèmes d'anémie et qui va nécessiter des chirurgies, l'endométriose qui cause l'infertilité ou l'endométriose qui tout simplement va être découverte de façon fortuite lorsqu'une femme se fait faire une ligature. Mm-hmm. Donc oui, 5 à 10 %, mais il y a un spectre de symptômes qui est tout à fait différent d'une femme à l'autre.
Parfois, bon, vous disiez que ça peut causer l'anémie. Est-ce que c'est parce que parfois les règles sont très, très abondantes?
Un des principaux problèmes avec l'endométriose, c'est effectivement les problèmes au niveau des règles. La menstruation, souvent chez les femmes qui ont l'endométriose, vont être très abondantes, vont durer aussi beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et ces règles vont s'accompagner souvent d'un segment important qui peut faire que une femme qui a une alimentation normale va se retrouver avec un problème d'anémie. Donc, on va épuiser les réserves en fer malgré la part normale que cette femme va avoir. Donc, fatigue, essoufflement, difficulté à maintenir le rythme dans la journée. Donc, ça, c'est une des manifestations. La quantité et la durée et la douleur des menstruations, surtout si les douleurs menstruelles ne sont pas soulagées par les anti-inflammatoires, certainement, il faudrait y penser. Et il y a aussi toutes les complications qui viennent du fait que l'endométriose, c'est un segment, une place où est-ce que c'est pas équipé pour recevoir un segment. Et souvent, ça va causer de la douleur chronique. Ces femmes-là vont souvent avoir des maux de bas de ventre très importants qui peuvent se mélanger avec des symptômes d'infection urinaire ou de douleur aux relations sexuelles. Mais qu'est-ce qui est assez particulier, c'est que les adhérences, les espèces de cicatrices l'utérus qui se forme dans le bas du ventre par l'inflammation suite au saignement dans le ventre, va faire que les organes vont être un peu comme attirés les uns sur les autres. On appelle ça des adhérences. Mm-hmm. On entend parler des fois des femmes qui ont des toiles d'araignée. C'est sûr que c'est pas des toiles d'araignée, c'est des adhérences. Et à ce moment-là, l'utérus va être collé avec l'ovaire. L'ovaire va être collé avec l'intestin. La vessie va être collée avec la paroi de l'abdomen. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, souvent, ces femmes vont se plaindre de difficultés à l'évacuation des selles. Ces femmes-là vont aussi avoir des douleurs lors des relations sexuelles de pénétration. Ils ont l'impression que le partenaire va trop loin dans le vagin et ça réveille des douleurs qui, souvent, vont non seulement obliger l'arrêt des relations, peut-être changer de position pour la pénétration, mais souvent, ces douleurs peuvent persister jusqu'au lendemain d'une relation sexuelle.
Et est-ce que c'est à cause de ces adhérences-là, Dr Steben, que les femmes qui vivent avec l'endométriose doivent parfois avoir des chirurgies?
Oui, exactement. Donc, il y a le problème, il y a des gros kystes qui peuvent se former sur les ovaires. Et à ce moment-là, lorsque ces kystes vont se rupturer, ça va donner comme une hémorragie aiguë qui est sans conséquence mortelle, mais ça va donner de l'inflammation et une douleur qui peut être très importante, qui va rester pour plusieurs jours.
Est-ce que toutes les femmes qui ont de l'endométriose sont infertiles?
Non, c'est vraiment pas le cas. Des fois, on va faire une trouvaille, on va avoir des points d'endométriose sur les parois de l'abdomen sans que ça vienne toucher du tout les trompes, les ovaires, et donc n'est pas nécessairement relié à l'infertilité. Mais on sait que c'est dans le cadre de l'évaluation pour les causes d'infertilité, parce qu'une femme, on va évaluer le sperme de son partenaire qui est tout à fait adéquat. Cette femme-là a des signes d'ovulation qui sont clairs. Elle n'a pas présence d'infection transmissible sexuellement. Pourquoi ne tombe pas enceinte? On va vouloir vérifier si ces trompes sont perméables et on injecte soit de l'air ou un colorant par le vagin, le col utérus, pour colorer les trompes. Et on s'aperçoit à ce moment-là que les trompes sont bouchées. Et au lieu d'être un macaroni qui laisse passer l'ovule et l'amène jusqu'à l'utérus, on s'aperçoit que c'est plutôt un cul-de-sac. Donc, l'endométriose, surtout lorsqu'elle atteint les trompes d'utérus et endommage la trompe d'utérus, ça va certainement causer l'infertilité.
Est-ce que l'on connaît les causes? Je pense qu'il y a un facteur d'hérédité assez fréquent. Hein?
Il y a parmi les facteurs, c'est sûr, le facteur d'hérédité. Le fait d'en avoir dans sa famille fait qu'on est probablement plus propice à avoir de l'endométriose, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont aucune histoire chez les grands-parents, chez les cousines, les tantes, les sœurs d'endométriose. Donc oui, ça peut augmenter nos risques, mais c'est pas suffisant pour avoir l'endométriose.
Vous avez énuméré, Dr Steben, tous les impacts que l'endométriose peut causer sur la vie au quotidien d'une femme. On parle de relations sexuelles, de problèmes de santé, d'infertilité. Est-ce que vous avez observé plus de dépression chez ces femmes-là?
Bien, c'est sûr que un des problèmes qui est souvent négligé, l'endométriose, c'est l'atteinte à la qualité de la vie. Lorsqu'on voit les femmes qui ont de l'endométriose être menstruées 9-10 jours par mois, avoir des difficultés à avoir des relations sexuelles, avoir de la difficulté à garder un bon esprit au travail, parce que quand on a de la douleur tout le temps dans le bas du ventre, c'est très désagréable. Le fait de ne pas pouvoir avoir des relations avec son partenaire, souvent ça amène beaucoup d'anxiété, des fois peut-être un peu de tiraillement à l'intérieur du couple. C'est sûr que les femmes qui ont l'endométriose ont une bonne atteinte au niveau de la qualité de la vie. L'endométriose semble aussi causer de la douleur qui, même une fois qu'on a réussi à maîtriser l'endométriose, semble continuer. Donc, il y a quelque chose dans l'endométriose qui semble faire que les femmes sont plus susceptibles à avoir de la douleur chronique aussi. On sait que toute forme de douleur chronique peut amener aussi de l'anxiété et de la dépression.
Ouais. Et vous parliez tout à l'heure d'anti-inflammatoire. Est-ce que c'est la seule manière de stabiliser, je dirais, l'endométriose?
Non. Dans les traitements, il y a définitivement plusieurs formes de traitement. Dans les cas graves, c'est sûr, on va pouvoir faire une chirurgie par le nombril. On va pouvoir rentrer un instrument, un laparoscope, et on pourra aller brûler les taches d'endométriose. On pourra aller couper les adhérences. Donc, il y a des traitements chirurgicaux dans des cas plus avancés. Dans des cas moins avancés, souvent, la maîtrise des symptômes, surtout lorsqu'une femme n'a pas besoin, ne veut pas de grossesse ou a fini ses grossesses, on va vouloir soulager les symptômes. Et souvent, le plus simple, c'est de donner la pilule contraceptive sans arrêt. Donc, on imite une grossesse parce que souvent, les patientes sont bien après une grossesse. Ils ont une espèce de rémission temporaire. Donc, on va vouloir donner la pilule anovulante. Et dans certains cas, on va vouloir même leur mettre un stérilet avec des hormones, le stérilet qu'on appelle Mirena ou le JDS pour les plus jeunes filles. Donc, c'est des possibilités. Donc, on peut utiliser des traitements hormonaux. On peut utiliser aussi des traitements anti-hormonaux. Donc, il existe quelque chose qui s'appelle le Lupron ou le Zoladex qui bloque, qui induit une ménopause artificielle. C'est un traitement qu'on donne souvent chez les femmes avant une chirurgie pour faire rétrécir les lésions, pour qu'il y ait moins de lésions à traiter. Et il existe aussi des traitements qui sont juste des progestatifs. Les progestatifs sont souvent utilisés en médecine, même comme contraception, mais ce n'est pas anovulant. Donc, la femme continue à ovuler, mais on peut, avec un progestatif, il y a une marque qui s'appelle Visanne, c'est quelque chose qui peut donner des soulagements très importants aux femmes, mais Visanne n'est pas une pilule anovulante comme telle. Donc, il existe une panoplie de traitements qui vont aux anti-inflammatoires seuls pour les femmes qui ont peu de douleur, peu d'impact, à des traitements où on empêche l'ovulation, à des traitements chirurgicaux, et c'est sûr, tous les traitements pour l'infertilité aussi qui peuvent embarquer lorsqu'une femme veut avoir une grossesse.
Et tout à l'heure, quand vous parliez de la chirurgie par le nombril, vous alliez brûler les taches d'endométriose, est-ce que ça signifie que la femme guérit?
C'est très difficile parce que, comme je disais, même si on enlève les taches d'endométriose, c'est vrai que les femmes demeurent avec la douleur. Il y a un lien entre l'endométriose et la douleur qu'on a un petit peu de difficulté à s'expliquer pour l'instant parce que nombre de femmes, après un traitement d'endométriose, gardent cette douleur-là. Puis, c'est pas rare que certaines femmes réussissent à enlever peut-être 80 % de l'endométriose, mais il en reste beaucoup moins, et où elle est située à des endroits où ça serait peut-être un petit peu plus compliqué de les traiter, comme sur la paroi de l'intestin. On ne voudrait pas que le traitement fasse perforer l'intestin, ou sur la vessie et fasse perforer la vessie. Fait que des fois, on va essayer d'enlever le plus d'adhérence qu'on peut. On veut enlever les taches majeures ou les kystes. Donc, des fois, il y a des espèces de boules de sang qu'on appelle les endométriomes. Donc, on va vouloir nettoyer, mais c'est difficile de dire qu'une femme n'aura plus jamais d'endométriome. On ne pourra jamais donner cette garantie-là après un traitement.
Au même titre que l'on ne sait pas à quel âge ça va survenir, est-ce qu'il est possible qu'une femme qui a pris la pilule contraceptive pendant des années, quand elle cesse de prendre ce médicament, voit apparaître des symptômes d'endométriose qui auraient été camouflés?
Oui, effectivement. Donc ça, c'est souvent un des problèmes. On a des jeunes patientes qui viennent nous voir et qui ont des douleurs menstruelles. Donc, ils commencent, ils ont 13 ans, ils ont 12 ans, ils ont 14 ans, et là, ils ont des douleurs menstruelles, ça les empêche d'aller à l'école. Ils ont des menstruations tellement abondantes que serviettes et tampons suffisent pas. Donc, on leur donne la pilule et miraculeusement, ça va super bien. Puis ces filles-là, souvent, vont se ramasser peut-être à 28 ans, 30 ans. Puis là, on veut un bébé. Puis là, on arrête la pilule, mais on oubliait les problèmes qu'on avait dans le temps. Et lorsqu'on arrête la pilule, on s'aperçoit que les longs cycles, les douleurs reviennent. Puis après un an, deux ans, cette fille-là qui veut tomber enceinte, t'es pas tombée enceinte, on fait de la laparoscopie, puis on s'aperçoit, oups, il y a de l'endométriose. Fait que probablement que la pilule, l'endométriose peut se manifester très jeune. Au début, on disait que l'endométriose, c'est une maladie des vieilles filles, des filles qui n'étaient pas mariées, qui ne voulaient pas d'enfants, etc. On s'aperçoit que c'est peut-être même bien avant ça. Il y a des filles qui nous racontent des histoires de douleurs menstruelles importantes, d'absentéisme à l'école avec de l'anémie, qu'on leur a donné la pilule, ça a été super bien. Il est assez probable qu'une proportion de ces filles-là aient déjà l'endométriose.
Et bien sûr, si notre mère ou nos tantes ont souffert ou souffrent d'endométriose, On devrait en parler à notre gynécologue, j'imagine.
Oui, à son médecin de famille ou à son gynécologue. Donc, dans les cas où une fille ne tombe pas enceinte avec un partenaire qui est fertile, des menstruations abondantes, des douleurs pelviennes, des douleurs aux relations sexuelles profondes, c'est toutes des choses qui nous devraient nous faire penser à l'endométriose.
Mm-hmm. Est-ce que l'endométriose est liée au cancer de l'endomètre?
Non, l'endométriose n'est pas reliée au cancer de l'endomètre. Par contre, il y a une forme d'endométriose particulière qu'on appelle l'adénomyose. Donc, on dirait que c'est dans l'utérus. Les cellules de l'endomètre pénètrent dans le muscle de l'utérus. On appelle ça de l'adénomyose. Et donc, c'est une maladie qui est un peu comme une cousine de l'endométriose, où ces patientes-là aussi, dès qu'on les met sous une pilule anovulante ou un stérilet, vont beaucoup mieux avec un contrôle de la douleur. C'est pas qu'il n'y a absolument plus de douleur, mais les douleurs deviennent beaucoup plus sporadiques, beaucoup moins intenses et n'interfèrent pas avec la vie au quotidien ou la vie sexuelle.
Mm-hmm. Donc, une femme qui souffre d'endométriose ne sera pas nécessairement suivie de plus près là, pour un risque de cancer.
Non, elle va être évaluée périodiquement pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais notre gros problème, c'est le diagnostiquer. Parce
ouais.
que techniquement, l'outil qui est le plus souvent fait pour les femmes qui ont des problèmes de saignement, de douleur, ça va être on va dépister pour la gonorrhée, la chlamydia, on va s'assurer qu'il n'y a pas de cellules anormales pour le cancer du col utérus et on va faire une échographie.
Okay.
Et l'échographie est un instrument diagnostique très intéressant, mais pour les cas précoces d'endométriose, qu'est-ce qu'on appelle les stades 1 ou les stades 2, il est très probable que l'échographie manque complètement le diagnostic parce que ces lésions-là sont beaucoup trop petites mm-hmm. pour être décelées par l'échographie. Et c'est pour ça qu'en général, la majorité des cas qu'on soupçonne d'endométriose, on va commencer par faire un test avec un traitement avec des anovulants. Et si ça ne fonctionne pas, là, on pourra regarder pour demander un gynécologue de faire une laparoscopie pour bien établir le diagnostic d'endométriose.
Et c'est pour cela qu'on disait d'entrée de jeu, Dr Steben, que c'est une maladie complexe.
C'est une maladie complexe avec conséquences sur la vie ouais. de tous les jours, sur la vie reproductive, sur la vie sexuelle. Même bien traitées, ces femmes-là peuvent rester avec un syndrome douloureux du bas du ventre une bonne partie de leur ouais. vie.
Est-ce que la prévention, en terminant, la prévention est-elle possible?
Bien, c'est sûr que c'est pas tellement la prévention, parce que pour la prévenir, il faudrait faire quelque chose qui fait que les cellules n'apparaissent pas. Donc,
ouais.
il existe rien actuellement qui nous permette de dire qu'un traitement va nous empêcher d'avoir l'endométriose. Je pense que c'est surtout le diagnostic précoce. Lorsqu'une femme s'aperçoit que ses douleurs menstruelles ne répondent pas aux anti-inflammatoires, qu'elle a de la difficulté, qu'à toutes les relations de pénétration, peu importe la position, elle a des douleurs, elle doit arrêter les relations. Lorsqu'elle a des douleurs dans le bas du ventre qui l'empêchent d'aller au travail régulièrement, qui lui cause de l'absentéisme, c'est toutes des petites puces à l'oreille qui devraient nous dire, mais peut-être je vais glisser un mot à mon médecin à propos de l'endométriose.
Oui. Eh bien, et puis j'imagine aussi que on ne l'a pas abordé, mais dans la gestion de la douleur, il y a l'activité physique aussi qui doit être assez recommandée.
Nous, on a la clinique multidisciplinaire pour les douleurs gynécologiques et c'est clair que pour nous, ça comporte à la fois une évaluation au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, au niveau de la qualité de vie en général. Et c'est sûr que l'exercice est un des meilleurs médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et antidouleurs. Lorsqu'on fait l'exercice, on fait des endorphines, c'est notre morphine naturelle. Et puis on sait qu'à peu près toutes les douleurs chroniques, le fait de faire de l'exercice va soulager les symptômes. On le sait que c'est vrai aussi pour les femmes qui ont des syndromes prémenstruels, donc l'exercice définitivement. Et puis c'est sûr, lorsque ces douleurs-là sont des sources d'anxiété ou de malfonctionnement, et on peut les voir avec l'aide de son médecin, trouver une psychologue ou une sexologue mm-hmm. qui est spécialisée sur les aspects psychosexuels de la douleur qui vient avec l'endométriose.
Docteur Marc Steben, vous êtes directeur médical de la clinique A. Merci beaucoup de prendre à cœur la santé des femmes.
Merci beaucoup.
Au revoir,
au plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Docteur Régent Savoie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes oncologue, gynécologue du côté du Nouveau-Brunswick, hein, c'est ça?
Oui, oui, je suis au Nouveau-Brunswick. Je travaille au Centre d'oncologie Dr. Léon Richard à Moncton.
Et c'est là qu'on vous joint. Justement, vous êtes également l'auteur de ce livre « La ménopause au jour le jour ». C'est publié aux éditions Berger, coécrit avec Gemma Aucoin-Gallant. Et je le disais en introduction tout à l'heure, Dr. Savoie, la ménopause, c'est une étape qui est inévitable dans la vie de toutes les femmes à l'orée de la cinquantaine. Et vous, vous nous dites qu'à n'importe quel âge, c'est important de s'y préparer tranquillement et qu'il est possible d'alléger les symptômes.
Oui, oui, tout à fait, puisqu'il y a beaucoup de conseils dans notre livre, en fait, qui mentionnent, en fait, des bonnes habitudes de vie. Je pense qu'avec des bonnes habitudes de vie, que ce soit du côté alimentaire, du côté exercice, du côté technique de relaxation, on arrive à avoir une vie qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus agréable, et tous ces choses-là qu'on peut faire durant toute sa vie, ben, mm-hmm. ça peut nous aider en ménopause. Puis si on ne l'a pas fait avant, il y a toujours un temps où on peut surprendre. Puis mm-hmm. je pense que ça, c'est important de le dire aussi, qu'il n'y a pas de moment idéal. Je pense que plus tôt qu'on le fait, mieux que c'est, mais il n'est jamais trop tard pour le faire puis se prendre en main, puis se donner du temps à soi-même.
Vous abordez aussi dans ce livre-là la périménopause, qui était un terme, moi, que j'apprenais au contact de votre publication. Ça se passe à quel âge, ça, la périménopause?
C'est qu'à un moment donné, on avait différentes nomenclatures. On parlait de préménopause, de ménopause, ouais. de postménopause. Mais une fois que tu es ménopausé, tu es comme en postménopause parce que tu l'es ou tu ne l'es pas. Puis la périménopause, l'âge de la ménopause, ça survient vers 52 ans en moyenne. Puis on dit que la périménopause, ça se passe à peu près dans les 5 années précédant l'âge de la ménopause. Mais il y a des gens chez qui ça varie. Fait que moi, je pense que à 40, mettons qu'on dit 52, on enlève 5 ans, disons qu'à 45, on peut commencer une périménopause, mais à 40 ans, on devrait commencer à faire des modifications dans notre style de vie, si on ne les a pas déjà fait, pour justement être prêt. Parce qu'en périménopause, on peut aussi présenter des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la ménopause. Ça n'arrive pas là nécessairement juste à la ménopause. Mm-hmm. La ménopause étant 12 mois sans avoir eu de menstruation.
Je pense que l'une des grandes préoccupations des femmes qui vivent cette étape, c'est les bouffées de chaleur. Et vous nous dites que ça aussi, c'est possible d'alléger, parce que, bon, il semblerait pas hyper agréable.
Oui, c'est-à-dire que les bouffées de chaleur, il y a des moyens, en fait, qui sont non médicamenteux, en fait, qui sont, entre autres, pratiquer des exercices de relaxation, faire de l'exercice, diminuer la consommation de café, d'alcool, et aussi dans l'alimentation, encourager en fait plus de phytoestrogènes avec le soya, les graines de lin. Il y a des choses là qu'on peut faire. Puis à ce moment-là, si on fait ces choses-là, puis qu'on évite des situations qui sont stressantes, ben on peut arriver là à corriger puis améliorer ces bouffées de chaleur-là qui ne seront pas nécessairement toujours, mais on sait que ça peut durer en moyenne de 2 à 5 ans, mais il y a chez certaines personnes que ça peut aller au-delà de 70 ans. Mm-hmm. Faut s'habiller, qu'on appelle, on va plus d'oignons, mais plusieurs vêtements. Si on a bouffé une chaleur, on peut enlever une coupe. Mm-hmm. Puis, dépendant si ça se passe dans la nuit, ben, il faut avoir une chambre bien aérée, l'air conditionné, si on peut se le permettre, puis garder la température à peu près 18-19 degrés centigrades. Donc, il y a des choses là qu'on peut faire. Puis, à un moment donné, s'il n'y a rien qui marche, on a toujours certains médicaments qu'on peut utiliser aussi. Puis, je pense qu'on peut... on parlera de l'hormonothérapie à un moment donné, mais je ne vais pas embarquer là-dedans pour tout de suite. On va passer des choses qui sont non médicamenteuses.
Oui. Ben, on apprenait également, en tout cas, du moins moi, j'apprenais que la ménopause a un effet sur notre peau également.
Oui, on sait que la peau, en fait, il y a trois couches. Il y a l'épiderme, le derme puis l'hypoderme. On sait que les estrogènes peuvent avoir un effet au niveau du derme de la peau, pour, au niveau du collagène, et on pense que ça peut être un facteur. Mais le plus gros facteur pour la peau, en fait, c'est l'exposition au soleil mm-hmm. et le tabac. Ça, c'est majeur. Génétique, peut-être un effet quand même 10%, mais c'est surtout l'exposition au soleil et la cigarette qui est les pires vecteurs pour faire vieillir la peau prématurément. Donc, il faut prendre soin de sa peau. Il faut s'assurer d'avoir des écrans solaires si on va au soleil, mais je pense que si on peut se tenir à l'ombre, c'est encore mieux. Puis de vérifier l'indice UV chaque jour, s'il est plus que 3, de se mettre une crème solaire d'au moins 30. Et il y a des belles directives, là, si on va sur Internet, de l'Association des dermatologues au Canada qui donne tout un chapitre puis des recommandations de ce côté-là. Mais soleil, tabac, c'est les deux choses, et pire encore que,
pour notre peau. Le temps file à vive allure, docteur Savoie. L'hormonothérapie, oui, j'ai envie quand même d'en glisser un petit mot. Ce livre-là est aussi pour guider les femmes dans leur choix, savoir si elles doivent aller vers cette option-là ou pas.
C'est ça. C'est que dans le livre, vous avez vu qu'il y a un journal de bord où on note tous ces symptômes, puis on fait des manœuvres qui sont, entre guillemets, non médicamenteux. Et ensuite, quand c'est devenu très sévère, modéré à sévère, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui a marché, bien, c'est important de consulter le médecin, puis de prendre une décision éclairée avec l'hormonothérapie. Ce qui est arrivé avec l'hormonothérapie, vous savez qu'en 2002, il y a eu une étude du WHI, World Health Initiative, qui, en fait, a... Moi, j'ai connu l'époque où les hormones, c'était super important, puis on en prescrivait à tout le monde parce qu'on pensait que ça prévenait beaucoup plus de maladies que seulement les symptômes de ménopause, mais ça a été, dans cette étude-là, fait, et on avait l'impression qu'il y avait des effets négatifs. Mais encore là, la moyenne d'âge était de 63 ans, je pense. Puis ensuite, on a revisé tout ça, puis en 2006, on est devenu avec un consensus que si on prenait des hormones, là, 5 ans et moins, l'effet ou le risque de cancer du sein, ces choses-là étaient beaucoup, étaient minimes. Puis à ce moment-là, donc, c'est important de prendre la dose la plus faible nécessaire pendant une durée de 5 ans. Et à ce moment-là, on limite les effets ou les indésirables de la ménopause. C'est pas utile de souffrir en silence. Je pense qu'il y a de la place pour l'hormonothérapie, mais réfléchir, discuter et s'assurer qu'on n'a pas de contre-indications. Puis je pense que les médecins de famille et la profession médicale là-dedans peuvent guider. Mais il faut surtout en parler. Il faut pas garder le silence comme on fait souvent avec ce qu'on souffre avec les symptômes de ménopause.
Oui, parce que même en 2015, parfois la ménopause, c'est encore tabou. La ménopause au jour le jour, c'est publié aux éditions Berger. Et comme on le disait, il y a à la fin un petit journal pour guider vos choix et apprendre à mieux gérer vos symptômes pendant cette étape, eh bien, qui est inévitable dans toutes nos vies de femmes. Docteur Régent Savoie, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous parler.
Une chose qui est importante aussi, n'oubliez pas d'impliquer vos conjoints et conjointes, et que les hommes ont aussi intérêt à lire ce livre-là pour mieux comprendre et aussi pour se prendre en main eux-mêmes.
Eh bien, je le proposerai bien sûr à mes collègues masculins ici.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
Merci.
Au revoir.
Bye-bye.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, de Marianne Paquette au micro. Ben, nous, on vous dit à demain, même heure, même poste, bien sûr en s'assurant que vous vous portez bien d'ici là. Et puis, bon après-midi. Bye-bye.